7h15. Ce matin, c'est intéressant parce qu'on dit souvent que c'est important de faire faillite au bon moment.
Oui.
Et tu prends l'exemple d'une vedette, d'un athlète connu qui se retrouve, malgré évidemment les millions qu'il fait danser, avec un actif négatif.
Oui. Evander Kane est moins riche présentement qu'une personne la plus pauvre du Québec. Évidemment, il y a un salaire qui s'en vient, il y a des revenus, mais le joueur des Sharks se retrouve dans une situation spéciale, 47 créanciers qui l'attendent, évidemment. Reste que quelques années à son contrat, 26,8 millions de dollars de dette nette d'impôts, 10,2 millions d'actifs, des maisons. Mais on comprend que c'est des dettes de jeu qui auraient, disons peut-être, ou les problèmes de jeu qui auraient orchestré cette espèce de situation. Faut pas oublier que aussi que les joueurs de hockey paient des agents, un escrow account, c'est-à-dire une réserve, les impôts. Et donc, quand on voit leur salaire brut, c'est évidemment pas la capacité qu'ils ont de payer. Et là, il y a une banque, la Centennial Bank, qui a dit, écoutez, là, les Sharks devaient nous payer directement à partir du salaire de M. Kane et on n'est pas payé depuis un certain moment. Et donc, là, la faillite est déclarée. Et Paul, c'est intéressant parce que si Kane réussit, disons au niveau légal, je ne sais pas comment que ça fonctionne exactement aux États-Unis, mais à ce que son contrat soit terminé, qu'il déclare faillite et qu'il peut continuer sa carrière de joueur de hockey dans les prochaines années en empochant 7 millions par année, ça lui permettra peut-être de se refaire. Et c'est peut-être ça qui est important parce que si Kane continue à payer ses dettes, en regardant le montant des dettes, son salaire et le restant de sa carrière, pourrait finir sa carrière en payant des dettes sans jamais être capable de voir le bout. Et donc, le moment où on fait faillite parfois, c'est une façon de se refaire. Et au hockey, c'est très, très important parce que ta carrière est tellement courte, à moins que tu t'appelles Jaromír Jágr et que tu joues à peu près sur 3 décennies, mais la carrière est tellement courte que si tu fais faillite en fin de carrière, ben t'es faite. D'ailleurs, Jaromír Jágr avait eu des problèmes de jeu au début des années 2000 et a réglé ça et a continué à jouer par la suite. Mais ça démontre à quel point tu peux faire des revenus, des millions de revenus, on parle de dizaines de millions de revenus, mais ne jamais avoir assez, disons, épargné et investi par rapport à ton revenu pour t'en sortir et donc être pauvre malgré les millions. Et c'est sûr que ça va faire jaser. C'est spectaculaire. C'est un joueur, disons, qui n'a pas été encadré avec les problèmes qu'il avait. Mais Paul, ça souligne un autre point. Si tu donnes des millions à une personne de 21 ou 22 ans, il devrait y avoir, à l'entour de cette personne-là, un support pour l'aider parce que c'est trop d'argent. À 22 ans, tu ne peux pas avoir 8-9 millions, même si tu es un comptable de Montréal.
Mais par définition, c'est le travail d'un agent, là, tu sais. Puis Pierre Lacroix, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, c'était un peu ça qu'il faisait, là, même si les montants étaient moins élevés. Je l'avais déjà interviewé, puis il disait, au-delà là, de négocier le contrat, c'est de s'assurer qu'il va lui en rester.
Tu sais, c'est des enfants. Pendant qu'il y a des enfants à l'université qui appellent leurs parents parce qu'ils ont des problèmes à gérer, imagine, t'as l'enfant, entre guillemets, au même âge, mais qui gagne 7 millions par année. C'est sûr que ça fait parfois de mauvais comportements. Et si t'as des problèmes de jeu avec ça, c'est sûr que ça dérape. Mais c'est intéressant de voir à quel point, même avec 50 millions derrière la cravate, même avec 80 millions total de contrats sur une carrière, tu réussis à te mettre dans le trou.
Parle-moi de la PCU.
Oui, c'est l'heure de vérité, Paul. Les feuillets fiscaux vont arriver et ça va venir clore ou, disons, continuer le dossier de la PCU parce que ceux qui ont un revenu suffisant en plus de la PCU en 2020, ben ils vont avoir à payer de l'impôt et possiblement, par exemple, vous avez gagné 35 000, vous recevez vos T4, vos T4A durant l'année. Oups! Si vous gagnez 35 000, incluant la PCU, il se peut que sur vos derniers dollars, vous payez de l'impôt. Et donc, si par exemple, vous avez eu 6 000 $ de PCU en plus de gagner 35 000 ailleurs, vous allez payer 1 652 $ d'impôt en impôt marginal. Après ça, l'autre point qui est très intéressant, c'est que ceux qui ont été fraudés et qui ne le savent pas encore, parce que ça ne veut pas dire que vous êtes allé sur mon dossier de l'ARC pour voir si quelqu'un vous a fraudé, vous allez recevoir un T4A. Si jamais c'est votre cas, ben prenez des mesures, parce que ça veut dire que quelqu'un a réclamé la PCU pour vous si vous n'avez pas eu le chèque. Troisième point important, on va mettre en juxtaposition la PCU, les T4A, puis les T4 de travail. Et là, pour les périodes touchées, il y a des gens qui vont se retrouver à se dire « Ah ben, j'ai touché la PCU en même temps que du revenu d'emploi, plus que 1000 $ finalement. » Et donc, il y aura des demandes de remboursement potentiellement à des gens qui, selon leur feuillet T4A et T4, ont perçu les deux montants en même temps de façon erronée ou de façon excessive, disons. Et finalement, il y a toute la notion du 5 000 $. Tu sais, il y a des gens qui ont dit « J'ai gagné 5 000 $ l'an passé, mais ça, c'était avant les déductions des dépenses de travailleurs autonomes. » Et donc, le gouvernement avait dit « Ah, bien sûr que c'est 5 000 $ avant déduction, finalement, vous n'êtes pas admissible. » Et là, ça a soulevé des tollés. Et M. Trudeau a dit « On va trouver des arrangements. » Mais là, on va voir c'est quoi les vrais arrangements une fois qu'on va avoir fait notre déclaration de revenus. Et finalement, il y a même des gens, Paul, qui vont être surpris parce qu'ils vont avoir des acomptes provisionnels à faire l'an prochain peut-être parce que le montant à payer sur la PCU en impôts en plus de leurs revenus va faire en sorte qu'ils vont dépasser les seuils. C'est pas tant de personnes que ça, mais vont dépasser les seuils d'impôts à payer et donc vont être obligés de faire des acomptes provisionnels l'an prochain si c'est le cas.
Merci, monsieur.
Salut.
Salut, bonne journée. 7h21.